La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Alain de Savigny pour La joie de l'âme, l'incroyable destin d'Inès de Bourgoin, maréchal Lyautey, un roman historique aux éditions Éric Bonnier. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alain de Savigny, c'est donc un roman historique que vous consacrez à quelqu'un que je ne connaissais pas, l'épouse du maréchal Lyautey. Elle est née à Paris en 1862 et décédée à Casablanca en 1953. Une vie longue et bien remplie. Inès de Bourgoin avait 47 ans quand elle a épousé le général Lyautey, futur maréchal de France. Et on peut dire que sa vie ne se résume pas à ce mariage. Inès de Bourgoin a vécu à cheval entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Elle a donc connu enfant la guerre de 1870, puis les deux guerres mondiales. Elle a connu le Second Empire, la Troisième, puis la Quatrième République. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce personnage méconnu de l'histoire de France?
Alors, il faut peut-être remonter juste une seconde en arrière. Après une carrière de dirigeant de grande entreprise, à la retraite, j'ai fait 7 ou 8 ans que j'ai suivi des cours, des recherches et tout ce qu'on voudra au Collège de France, à la Sorbonne, au Languedoc et ailleurs. Et je suis devenu un historien de la Méditerranée et de l'Empire ottoman. J'ai donc commencé à écrire des romans historiques sur l'Empire ottoman et la Méditerranée, et nous en avions parlé ensemble. Et puis, il y a quelques années, je me suis dit, je peux peut-être aussi m'intéresser, puisqu'on est arrivé à l'époque des femmes, à un certain nombre de dames qui ont une vie absolument passionnante, mais qui ne sont pas connues. Et c'est très injuste, parce que pour une raison ou pour une autre, leur œuvre et leurs souvenirs ont complètement disparu. Alors, parmi ces femmes, j'ai effectivement pensé à Inès Lyautey. D'abord, ma famille avait eu des relations fortes avec cette famille de Bourgoin, qui m'a permis d'avoir accès à pas mal d'archives et documents. Et puis, d'autre part, il se trouve que Inès de Bourgoin, devenue maréchal Lyautey, et son mari allaient passer des vacances dans le Var, dans les propriétés de ma famille. Bon, donc, il y avait déjà un lien familial. En outre, comme on est, pour une partie importante du livre, au Maroc, ça fait quand même partie aussi des pays du tour de la Méditerranée et du monde musulman sur lequel j'ai beaucoup écrit. Donc il y a à la fois, j'allais dire, des raisons techniques et des raisons un peu sentimentales pour répondre à votre question.
Alors le destin des époux Lyautey est bien sûr lié au Maroc, mais c'est en Algérie qu'ils se sont rencontrés. Oui. Inès de Bourgoin avait déjà une vie bien remplie avant de rencontrer son deuxième époux, puisqu'elle était veuve, et elle exerçait un métier qui la passionnait. Elle était infirmière, d'abord à l'hôpital Beaujon, et c'est d'ailleurs sa photo avec son uniforme d'infirmière qui figure sur la couverture de votre livre.
Alors, en fait, vous avez tout à fait raison de le rappeler, sa vie n'a pas commencé avec Lyautey. Elle a d'abord eu une vie traditionnelle du monde aristocratique et bourgeois, avec également un premier mari qui était officier de A, et elle s'est retrouvée veuve à 38 ans. Et là, ça ne se faisait pas beaucoup à l'époque, fin du 19e siècle, pas encore beaucoup. Elle s'est dit, mes enfants sont grands, mon mari est décédé, je ne vais pas rester inactive, il faut que je fasse quelque chose pour les autres. Et elle a trouvé que la meilleure façon de le faire, c'est de s'engager dans la première promotion de ce qu'on appelait la SSBM de la Croix-Rouge, c'est-à-dire la formation d'infirmière de choc. On appellerait aujourd'hui ça peut-être infirmière sans frontières. Et elle est devenue infirmière non seulement diplômée, mais surdiplômée. Et très rapidement, tout en étant, vous l'avez rappelé, affectée à l'hôpital Beaujon, elle a été envoyée pour diriger des missions d'urgence. Alors on l'a d'abord envoyée à Casablanca pour créer un hôpital de campagne puisqu'il y avait la guerre au Maroc, la guerre entre les tribus et la guerre entre Marocains et Français. Et ensuite, elle a été créée un hôpital d'urgence à Naples pour s'occuper des 100 000 blessés ou disparus qui, enfin, l'Orient d'un séisme très important. Il y a eu un tremblement de terre colossal dans la région de la botte italienne et de la Sicile, le détroit de Messine. Et là, ça a été absolument catastrophique et les Italiens ont demandé de l'aide à la Croix-Rouge française. Bon, donc ça a été des expériences opérationnelles à la fois formidables, mais aussi très réussies, de sorte que quand elle a rencontré Lyautey, qui lui-même était en poste de commandement dans l'Ouest algérien, elle lui a dit, ben moi je peux continuer à faire des choses pour la population locale dans l'Ouest algérien, supervisé un peu par vous, qui êtes à la fois le patron militaire et politique de la région, et puis on va voir comment ça passe. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ce qui fait que quand Lyautey a quelques années après été nommé premier résident général de France au Maroc, après la signature du protectorat, évidemment elle a suivi son mari, ça va de soi, et depuis Rabat, et avec l'approbation et même la demande du sultan et du premier ministre, elle a continué son œuvre au Maroc et elle est devenue l'initiatrice, la créatrice de ce qu'on appelle aujourd'hui le médico-social, c'est-à-dire améliorer l'aspect médical des populations, mais aussi à travers ça, créer un lien social, non seulement dans les villes, mais jusqu'au fin fond des campagnes.
Alors, on va faire une petite parenthèse à Alain de Savigny. Vous rappelez dans ce roman historique que Lyautey était lié à Isabelle Ebrard, qui est aujourd'hui une figure légendaire, décédée en Algérie. Je me rappelle un livre d'Edmond Charleroux sur Isabelle Ebrard. Vous pouvez nous rappeler qui elle était et ce qui la liait au maréchal Lyautey ?
Oh, c'est extrêmement simple. Isabelle Ebrard, alors je connais très bien l'histoire, puisqu'il se trouve que Edmond Charleroux est une tante de mon épouse, donc nous étions aussi assez liés. Et Isabelle Ebrard était une femme à la fois aventurière et un peu originale, et pour des raisons diverses, elle avait décidé d'aller s'installer dans le sud algérien, à la fois pour elle-même, pour un peu comme Charles de Foucault se livrait à la réflexion, à la philosophie et à la religion, mais aussi pour les populations commencer à s'occuper un peu des gens. Alors là, on n'est pas du tout dans le monde médical, mais c'est simplement pour faire du lien social. Bon, il se trouve que comme c'était dans le territoire de Lyautey, en Algérie, l'Oranais, ils se sont rencontrés là, et Lyautey a été intellectuellement très attiré par cette femme, qui par ailleurs avait un amant, donc un Français local, mais il se trouve qu'il y a eu une séduction intellectuelle entre ces deux personnages. Or, malheureusement, à la suite d'une inondation absolument catastrophique, sa maison et elle ont été emportées dans l'oued qui avait gonflé, et quelques jours plus tard, son cadavre a été retrouvé à des dizaines de kilomètres de là. Donc Lyautey était un peu désespéré parce que c'était la première fois de sa vie qu'il rencontrait quelqu'un, et notamment une femme, avec laquelle il avait une espèce d'osmose intellectuelle. Ce qui fait que quand il a rencontré Inès de Bourgoin, femme au tempérament exceptionnel, mais avec en plus de la classe, de l'éducation, de la culture, etc., il a été reséduit à nouveau. Je dirais pas que l'une a apporté l'autre, mais que quand même, il y avait un petit lien, un peu, vous avez raison de souligner cette chose-là.
Alain de Savigny, vous l'écrivez dans le roman, les époux Lyautey ont passé 13 ans au total au Maroc, une période qui va marquer durablement le royaume et lier leurs noms, les noms de ces deux personnes au royaume. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi le Maroc d'aujourd'hui continue à revendiquer l'héritage laissé par Lyautey, nommé résident général, alors qu'il représentait tout de même le pouvoir colonial français?
Alors là, c'est extrêmement simple, et je vous remercie de poser cette question, parce que c'est quelque chose que j'explique dans toutes mes conférences. Quand la France est arrivée au Maroc, elle n'était pas la seule. Il y avait des Espagnols au nord, il y avait des Allemands qui voulaient s'installer aussi, il y avait etc. Bon, il se trouve que les accords internationaux ont fait que c'est la France qui a été désignée pour prendre un protectorat au Maroc. Et quand Lyautey a été nommé premier résident général, le Maroc, c'était le Moyen-Âge. Et Lyautey, conformément à sa philosophie qu'il avait apprise auprès du colonel, puis général, puis maréchal Gallieni, il voulait développer les pays dans lesquels il était intervenu, à la fois pour la mère patrie, c'est-à-dire la France, ça va de soi, mais aussi et surtout pour le pays lui-même, sa population et peut-être son avenir. C'était un visionnaire. Donc il a proposé au sultan un colossal plan de modernisation du pays, qui était en premier lieu quelque chose d'assez matériel, c'est-à-dire moderniser l'agriculture, développer l'industrie, créer le port de Casablanca, faire des routes, les premiers aérodromes, etc., etc., mais aussi qui était une façon d'abord de mettre la paix dans ce pays où les tribus ne cessaient de se battre depuis des décennies, et aussi en faire une relation forte entre les Français qui s'installaient là-bas, des colons pour la plupart, et puis la population marocaine. Et au fond, on peut constater que bon an, mal an, avec évidemment des hauts et des bas, et notamment au moment de l'indépendance, la France et le Maroc ont eu et gardé des liens fort, très très fort, à telle enseigne que quand Lyautey avait pris sa retraite dans son manoir de Lorraine, les souverains marocains, les uns après les autres, venaient tous les ans, tous les étés, passer quelques jours chez lui pour lui demander conseil. Donc il avait gardé vraiment, d'abord il avait séduit ces gens, et ensuite il avait gardé une aura. Alors évidemment, vous imaginez qu'avec le temps, l'aura disparaît, les conditions changent, etc., et que maintenant, il n'y a plus beaucoup le nom de Lyautey au Maroc, il y a encore le lycée français de Casablanca, qui est notre plus grand lycée français à l'étranger, mais toutes les rues, les avenues, etc., les places ont été débaptisées, la place Lyautey, etc. Néanmoins, le souvenir reste très très fort.
Alain de Savigny, on sait donc quel rôle historique a joué le maréchal Lyautey au Maroc, mais avant votre livre, on a peu parlé de la place qu'a joué son épouse au Maroc. Quelle trace a-t-elle laissée dans ce pays où elle a vécu et où elle est décédée à un âge avancé? Elle a joué un rôle important, notamment dans son domaine de prédilection, la santé.
Alors, effectivement, je n'ai pas écrit un livre sur Lyautey. On ne peut pas éviter de parler de Lyautey, qui était un personnage considérable, non seulement sur le plan militaire ou colonial, mais aussi sur le plan philosophique et social. Et ce livre est orienté, évidemment, sur sa femme, Inès de Bourgoin, qui est devenue la maréchale Lyautey. L'œuvre qu'elle a laissée au Maroc existe encore aujourd'hui. Elle a créé des centaines de dispensaires, de maternités, d'hôpitaux importants, des maisons de retraite, tout un tas de choses qui font que sur ce plan médical et social, le Maroc est rentré dans le XXe siècle et s'est développé beaucoup depuis. Et au fond, ce souvenir est quand même resté à travers, il y a une maternité Lyautey, etc. Donc il y a quand même si le nom n'apparaît plus beaucoup au Maroc, il reste quand même l'œuvre. Bon, peut-être que dans les décennies suivantes, quelqu'un d'autre aurait fait aussi des choses. Mais elle, c'est vraiment, elle est partie de zéro jusqu'au fin fond du bled. Elle avait organisé des espèces de petits convois tirés par des ânes, des chevaux, des bœufs pour porter, le soin médical au fin fond de l'Atlas ou du Tafilelt ou du bled, etc. Et quand on arrivait là, c'était un lien social avec le reste du pays. Donc c'est très important.
La Première Guerre mondiale a eu une conséquence sur la vie des époux Lyautey. Le résident général est devenu ministre de la guerre en 1916. Mais il avait posé une condition au président Poincaré, l'assurance de reprendre son poste au Maroc.
Il était nommé au milieu de la Première Guerre mondiale parce que à l'époque, il y avait beaucoup de dissensions à la tête de l'armée, entre les généraux, les futurs maréchaux, etc., et qu'il fallait quelqu'un avec un tempérament fort pour reprendre un peu les choses en main, et surtout avec un tempérament d'organisateur. Lyautey, quand il est arrivé, bon, il a accepté du bout des lèvres, il n'était pas très fanat pour aller là, mais il y a quand même été, et la première chose qu'il a proposée, c'est une unification des commandements de l'armée, non seulement des armées françaises, mais aussi avec des troupes alliées, notamment anglaises. Et la deuxième chose qu'il a voulu proposer, il a été visionnaire, de créer une première et vraie armée de l'air, alors que jusqu'alors, vous savez comme moi, que les avions étaient pilotés par des gens issus de la cavalerie, et c'était tout ça un petit peu en marge quand même des grands combats. Il a été en permanence hué, je dis bien hué, à l'Assemblée par les députés socialistes qui qui détestait ce Lourdes, qui était un homme de droite, assez directif, et au fond, trop catholique. Je vous rappelle que c'était quand même une époque où la religion n'était pas bien vue par un certain nombre de gens. On était en pleine Troisième République, assez radicale et assez socialiste. Et je rappelle également que dans les promotions de maréchaux d'après la guerre, l'un d'entre eux qui devait être maréchal ne l'a pas été parce qu'il était trop catholique. Donc pour Lyautey, c'était une situation insupportable. Et comme par ailleurs dans cette Troisième République, les gouvernements sautaient tous les 6 mois, au bout d'un certain temps, il en a eu assez, il a demandé à retourner au Maroc et on l'a aussitôt renommé résident général au Maroc.
Est-ce que Inès de Bourgoin s'est intéressée au cours de sa vie à la cause des droits des femmes, Alain de Savigny?
Je ne sais pas, à l'époque, je ne sais pas très honnêtement répondre à cette question. Je pense que elle le faisait sans se poser de questions. Pour elle, une femme, c'est quelqu'un qui devait avoir un but dans la vie et le mettre en œuvre. Et comme elle était volontariste et qu'elle avait de l'entre-gens, elle l'a mis en œuvre. Mais je ne pense pas qu'elle a milité comme d'autres, vraiment dans des manifestations avec des pancartes, etc. Néanmoins, je rappelle qu'elle faisait quand même partie de la très grande SSBN, cette troupe d'élite d'infirmières, et il n'y avait là-dedans que des femmes. Voilà.
Un mot pour terminer sur le titre de votre roman, Alain de Savigny, La joie de l'âme. C'est une référence à la devise du maréchal Lyautey, La joie de l'âme est dans l'action. C'est une devise qui s'applique parfaitement aussi à son épouse.
Exactement. Lyautey avait choisi ça, il avait trouvé que c'était intéressant comme devise, c'était pas lui qui l'avait inventé, La joie de l'âme est dans l'action. Ça venait d'un dramaturge bien connu qui s'appelle William Shakespeare, et ça avait été repris au 19e siècle par le poète Percy Shelley. Il se trouve que ce titre que j'ai trouvé magnifique, La joie de l'âme, a été vraiment l'image même de l'action d'Inès et du tempérament d'Inès de Bourgoin, qui était vraiment quelqu'un qui, comme je l'ai dit, était quelqu'un de volontariste pour son métier, mais qui avait gardé beaucoup de féminité et beaucoup de sentimentalité. Et donc, c'est d'ailleurs en raison de cette sentimentalité, qu'elle a été séduite par le maréchal Lyautey, ce qui n'était pas évident d'épouser un homme à la fois de cet âge et de ce tempérament.
Merci Alain de Savigny. Je rappelle le titre de ce très beau roman, La joie de l'âme, l'incroyable destin d'Inès de Bourgoin, maréchal Lyautey, et c'est publié aux éditions Éric Bonnier. Merci.
Merci beaucoup.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.